Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 346 du podcast Jeune Actu. Alain Mathéi, très heureux de vous retrouver pour le premier d'une longue série de podcasts du mois de mars-avril 2020. À mes côtés, c'est un dispositif exceptionnel parce que d'habitude on fait vraiment pas comme ça, mais confinement oblige. Raoul Villeroy, bonjour Raoul.
Hello, salut tout le monde.
On a le droit de dire où t'es ou pas, non?
Bah si vous voulez, oui, c'est pas confidentiel.
Bon, non mais il y a la vie privée, c'est important.
C'est vrai, non, je suis reclus en Bretagne et là j'ai profité de la maison des grands-parents du village voisin vide pour aller choper un wifi à peu près convenable. Donc voilà.
Ah oui, donc en plus tu changes de maison quoi.
Oui, mais dans une maison vide, attention, je ne promène pas le virus auprès des personnes vulnérables.
Bon alors voilà, vous avez compris Raoul, les conditions de confinement les plus cool de nous trois. Un peu plus serré, nous avons Raphaël Masmejean, bonjour Raphaël.
Salut, salut à tous.
Raphaël donc qui est resté en Ile-de-France et moi-même, donc nous sommes à trois localisations différentes. Hein. Ouais. On vous donne un peu les coulisses, ça arrive pendant l'année qu'on enregistre à distance, mais en général eux ils sont à Paris et moi je suis ailleurs. Mais là on est à trois endroits différents et ça se passe à peu près bien, on est en visio, on enregistre le son.
Ouais.
Ça devrait être propre. Voilà, je dis un mot de tout ça. Pourquoi? Parce que donc vous le savez a priori, enfin j'espère pour vous que vous le savez parce que sinon vous êtes sorti et vous avez pris une amende. On est un peu confiné en ce moment et on a décidé d'adapter la programmation du podcast à tout ça. Donc trois émissions par semaine à partir de ce lundi 30 mars. Vous aurez des émissions le lundi, le mercredi, le vendredi. Pendant deux semaines, ça va être NFL grosso modo le lundi et puis draft, donc NCAA, mais consacré à la NFL, la draft NFL, le mercredi et le vendredi, donc avec Grégory Richard. Cette semaine, vous aurez les quarterbacks et les running backs, donc mercredi et vendredi. Et puis, donc, il y aura le live de la draft NFL, les 10 premiers choix. Il y aura aussi une mock draft en live la veille de la draft. Voilà, il y a plein de choses. Et puis on en reparlera. J'ai un petit truc qui me titille, mais ce serait de faire un live du film draft
Day.
Un peu avant. Alors, faudrait qu'on trouve un moyen de se faire ça. Je sais pas comment faire. Tu vois qu'on est en direct vidéo avec nos réactions, ouais. Comme on est là la visio.
Il est disponible sur Netflix ou sur d'autres plateformes légales?
Alors, je sais pas. Je sais pas.
Parce on est censé respecter un petit peu hein, ce genre de choses quand même si on fait une émission.
Voilà. En théorie, bon, mais il faudrait qu'on trouve un moyen de le caler au même moment, de le démarrer au même moment, et puis de regarder en direct et de se marrer. Ouais. Donc voilà, ça fait partie des projets. Je crois que pour l'instant, le confinement, c'est quoi, 15 avril ?
Ouais,
donc,
pour l'instant.
S'il est renouvelé après le 15 avril, on étudiera la faisabilité du Live Draft Day.
Ok.
L'émission du jour vous est présentée par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine qui a des boutiques à Lyon et Dijon, mais aussi une boutique en ligne, Brooklyn Fizz avec 2z.fr, du sucré et du salé, mais aussi des maillots NFL, des casquettes, des Funko Pop, des ballons. pantalons, des t-shirts. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Évidemment, confinement oblige, les boutiques sont fermées, mais vous pouvez aller en ligne pour les soutenir, bien évidemment, parce que bah, l'activité elle est ralentie aussi pour beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à soutenir nos partenaires, c'est important aussi. C'est parti donc, je le disais, pour le marathon de l'intersaison. Dans cette émission, on va parler free agency, quel avenir pour Cam Newton, quel quarterback pour les Bears, que fait Jadeveon Clowney au moment où on se parle, est-il confiné, est-il retenu quelque part et qui fait qu'il ne peut pas signer. On parlera nos gagnants et nos perdants de la free agency, un petit jingle et c'est parti.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Il a 30 ans, MVP de l'année 2015, joueur offensif de l'année 2015, rookie offensif de l'année 2011, 3 fois pro bowler, 1 fois première équipe All-Pro, 2 fois champion universitaire et Heisman Trophy. Et surtout, il est libre. Cam Newton a été coupé par les Panthers. Messieurs, je vais commencer avec une question simple. Pas de l'avenir de Cam Newton, mais plutôt de la situation à Carolina. Ils ont signé Teddy Bridgewater à la place. Est-ce qu'ils ont eu raison ?
C'est tôt pour le dire. Bridgewater, il avait pas été trop mauvais à ses débuts aux Vikings. Depuis, on l'a plus trop vu. Il a plus ou moins bien remplacé Drew Brees quand il fallait. Maintenant, sur le papier aujourd'hui, je trouve que c'est quand tu vois le palmarès des deux, c'est une mauvaise décision, mais tu peux pas savoir ce que va donner Bridgewater. Tu sais pas vraiment ce qui reste à Cam Newton dans le réservoir. Le move me paraît difficile à appréhender, mais peut-être qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas sur l'état de forme des deux.
Raphaël, Bridgewater ou Newton ?
Moi, je pense que le move est le bon si les Panthers veulent installer un jeune quarterback, un nouveau quarterback, en tout cas drafter quelqu'un cette année et l'installer dans un ou à la fin de l'année ou dans deux ans. En fait, je pense que c'est le bon move si Bridgewater sert juste de transition pour un quarterback rookie un an ou deux ans. Parce que je pense qu'un quarterback rookie avec Cam Newton, ça pouvait pas fonctionner. T'as un quarterback trop établi, trop star power, trop compliqué à mon sens, passer en fin de carrière. Donc si c'est l'objectif du nouveau coach des Panthers de jouer avec son quarterback choisi, moi je pense que c'est la bonne solution. Par contre, si son idée c'est d'installer Teddy Bridgewater pour les 6-7 ans à venir, là j'ai beaucoup plus de doutes, mais bon.
Il a déjà 28 ans ou 27, je crois, Bridgewater.
Donc 27, il y a 3 ans d'écart entre Newton et Bridgewater. Ouais. 63 millions sur 3 ans, 33 millions garantis pour Teddy Bridgewater. Donc, a priori, j'ai pas la structure en tête du contrat, s'ils peuvent le couper, pas le couper, mais c'est au moins 2 ans le projet, si je comprends bien ce qu'ils veulent faire avec Teddy Bridgewater. Moi personnellement, je pense que c'est une grosse erreur. En tout cas, quitte à avoir un ancien quarterback blessé, parce qu'on peut pas me dire oui, mais les blessures de Newton et dire derrière je prends Bridgewater, tu vois, dans les faits.
Ouais, en plus.
Je suis pas persuadé qu'il y ait une énorme différence. Donc autant garder celui qui est MVP et qui a un palmarès et qui a même joué. Alors Bridgewater a joué l'an dernier, il a gagné 5 matchs avec les Saints. J'ai les stats. Alors c'était 68% pardon, de passes complétées, 9 touchdowns, 2 interceptions, 12 sacks. Il faut quand même le préciser, en 5 matchs avec les Saints, ce qui prouve quand même qu'il y avait un peu de temps au niveau de la prise de décision par rapport à un Drew Brees, où on a la comparaison quand même assez immédiate. Bon voilà, moi je suis assez dubitatif là-dessus. Évidemment, plus récemment, il a été sur le terrain plus récemment. Mais quand Cam Newton, alors revenons-en à Cam Newton, quand Cam Newton joue avec North Turner en 2018 avant de se blesser, c'est plutôt un quarterback honnête en progrès sur le début de saison dernière avant ses blessures.
Bah, en progrès, oui, par rapport à la saison d'avant. Mais si tu reviens aux saisons un peu précédentes, il était bien meilleur à ce moment-là et c'est un niveau vers lequel il est censé retendre, j'espère. Et je suis d'accord que pour le coup, tu te passes d'un atout, alors toujours bien sûr potentiel, mais d'un atout fort quand même, quoi. Pour moi, c'est un move que j'ai du mal à comprendre.
Raphaël.
Oui, non, il débutait bien avec North Turner, qui était sans doute le meilleur coordinateur offensif qu'il avait eu jusque-là, donc c'était intéressant de voir ce que ça pouvait donner. Physiquement, il y a eu ces pépins qu'on a vus, là t'as un nouveau coach. Moi, je pense qu'effectivement, en pleine santé, c'est un Cam Newton est meilleur qu'un Teddy Bridgewater. Maintenant, quand tu vois comment ils ont plus ou moins détruit l'effectif en faisant partir Trey Turner, avec la retraite de Luke Kuechly, donc là, c'est pas dépendant de la franchise, c'est le choix du joueur. Hein, mais disons que, quitte à reconstruire, faire le choix de repartir à zéro me semble pas si stupide. Enfin. Bon, je voilà.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Je peux comprendre l'idée. Je peux comprendre l'idée de fond. Je comprends l'idée.
Et Raoul. Du coup, Kyle Allen, on l'oublie complètement.
Alors, on va venir aux Panthers. Ah. On va finir d'abord sur Newton. On a dit un petit. Comment ?
Mon mauvais, pardon, j'anticipe.
Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est une discussion à tiroir parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tu l'as dit, il y a Kyle Allen, il y a Teddy Bridgewater, il y a Cam Newton dans toute cette histoire. On va finir sur Newton. On a dit, il joue pas mal avec North Turner avant de se blesser. Il est blessé. Aujourd'hui, est-ce que c'est un quarterback que vous prendriez comme titulaire dans votre équipe ? Voilà, aussi simple que ça la question.
Bah, la réponse, elle est toujours, ça dépend ce que t'as. Moi, je trouve que oui, dans la mesure où tu prends certes, tu prends un risque, mais ton c'est quoi le ratio risque-gain potentiel est assez important. Et même, voilà, tu ne prends pas un énorme contrat, tu lui prends 2 ans, tu essaies de le faire pas trop cher. Aujourd'hui, il a plus d'équipe, donc a priori, il va vouloir jouer. Et normalement, j'espère pour lui que ses revendications sont pas trop importantes s'il veut trouver une équipe. Donc, en te débrouillant bien, tu fais un contrat pas trop important, tu vois ce qu'il vaut tout de suite, et puis bah si ça marche pas, t'essaies de faire autre chose. Mais ça vaut le coup d'essayer, je pense.
Raphaël, on a eu la discussion dans la rédaction ces derniers jours. Est-ce qu'on l'enterre pas un peu trop vite, Cam Newton ?
Je pense que certains effectivement l'enterrent un peu trop vite. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des circonstances aggravantes, on va dire, contre Newton. Cet état physique depuis 2 saisons qui a l'air un peu compliqué. Et c'est vrai qu'il a eu jusque-là, en début de carrière, un jeu quand même aussi axé sur son physique, hein, avec cette capacité à se mouvoir, à encaisser les coups. Donc forcément, ça
le salto avant, sur le touchdown, souvenez-vous.
Bah voilà, ouais, c'est ça. Donc forcément. Si certains doivent se dire que si Cam Newton a plus cet aspect double menace, on va dire, dans son jeu, parce que physiquement c'est plus compliqué, il est moins intéressant. Moi, je pense que beaucoup sous-estiment le Cam Newton passeur, en fait. Je pense sincèrement que le Cam Newton passeur est sous-estimé, qu'il est loin d'être un quarterback moyen à la passe comme certains semblent le penser. Et je pense qu'il est capable, qu'il a l'intelligence de jeu pour se réinventer pas mal, et qu'avec un bon coach. Moi, je le vois pas faire moins que certains des quarterbacks qu'on a vu en playoff cette saison. Je le vois pas faire moins qu'à Ryan Tannehill, et les Titans vont en finale AFC. Donc, bon.
Je suis assez d'accord avec toi, et encore une fois, je le dis parce qu'on a eu un débat très animé dans la rédaction, et je pense qu'on était à peu près tous d'accord sur le fait que. Peut-être qu'il est cramé à cause de ses blessures, etc. Mais on ne le sait pas, et qu'il y a vraiment un souci de perception avec Cam Newton, et qu'il y a vraiment une grosse partie de gens qui ont très envie de l'enterrer, à qui ça a l'air de faire plaisir. Alors oui, il a des trucs contre lui, il a eu des blessures, oui, il a eu une attitude très tête à claque pendant le début de sa carrière, il a fait la tronche après le Super Bowl, etc. Alors il ne s'est pas jeté sur un fumble pendant le Super Bowl. Bon, très bien, mais je pense que ça, au bout d'un moment, c'est quand même un peu limé et relimé. Il les a quand même emmenés au Super Bowl, il faut se rappeler de ce qu'il y avait dans cet effectif en termes de receveurs, en termes de... Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'on est assez d'accord, Raphaël, je parle sous ton contrôle, hein, mais sur le fait que, pour le coup, lui, il n'a aucune excuse... Enfin, personne ne le trouve d'excuse, personne ne module jamais rien. C'est jamais la faute des coachs, comme on pouvait le dire, de Blake Bortles quand il s'était ratamé en finale contre les Patriots. C'est jamais la faute des receveurs, comme on va dire pour certains quarterbacks, alors qu'il n'a quand même pas eu grand-chose de fabuleux chez les Panthers ces dernières années. Donc, voilà, tu disais, il sous-estime le passeur. Il y a quand même des gens qui croient très très fort en Lamar Jackson, etc. Tant mieux pour eux, ils y ont cru et il a progressé cette année. Mais quand je vois comment certains croyaient en Lamar Jackson après ce qu'on avait vu contre les Chargers en playoff, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas des gens qui croient plus en un mec qui a été MVP comme Cam Newton et qui peut faire des choses. Puis voilà, encore une fois, c'est revenu aussi dans la discussion qu'on avait, il y a quand même des gens qui se sont un petit peu emballés sur la réinvention de Michael Vick quand il est sorti de prison en tant que passeur, il était moins coureur avec Andy Reid, etc. Pourquoi Cam Newton, qui est un meilleur passeur que Michael Vick à la base déjà, pourrait pas se réinventer aussi, quoi. Donc voilà, moi j'y crois aussi plutôt s'il est déterminé, s'il est dans le bon cadre et qu'il y a un coach offensif qui se met autour et qui... voilà, s'il est déterminé, après tout, le talent, il ne s'est pas envolé non plus. Les blessures, c'est comme tous les joueurs, il y en a peut-être, mais sur l'esprit, le mec n'est pas devenu un loser comme ça, du jour au lendemain, total, alors qu'il a marché sur l'eau en 2015. Oui, c'est sa meilleure saison, mais voilà. Ce qui nous emmène à la question, puisque je disais coach offensif, etc., etc., où est-ce qu'il va jouer Cam Newton au moment où on parle? Il n'a toujours pas d'équipe. Quelle est la destination idéale, si vous devez en donner une?
Moi, j'irais vers les
Chargers. Tu vois, ouais, c'est vrai que ça pourrait. Mais tu vois, tu parles d'un cadre un peu qui le contrôle et tout. Quand tu penses à un truc comme ça, tu penses un peu aux Patriots, qui de plus n'ont pas de quarterback. Pourquoi pas?
Alors, moi, je suis Patriots aussi. Je suis comme Raoul, mais on va laisser Raphaël commencer. Chargers, pourquoi?
Chargers, parce que je pense qu'il y a déjà, il arriverait quand même dans un effectif assez structuré, que ce soit en attaque, défense. Il y a les cibles, il y a la ligne offensive, on y reviendra, mais qui a fait deux ajouts importants pendant l'intersaison. Donc il arrive dans une équipe bien rodée, qui a les joueurs pour jouer les playoffs, tout ça. Je pense que même médiatiquement, Cam Newton à LA, ça match. Je pense que ça ferait du bien à cette franchise qui se cherche un peu à attirer, on va dire, l'audimat à Los Angeles. Je pense que ça les aidera, un gars comme Cam Newton. Voilà, moi je suis peut-être un peu plus nuancé sur le coaching staff autour, mais bon, pourquoi pas nous, enfin pourquoi pas quoi. Je trouve que à l'heure actuelle, c'est peut-être le cadre qui marche le mieux pour lui.
Tous ces arguments-là sont totalement bons et valides, hein. Ce serait aussi une super destination. Moi, j'ai un peu de mal aussi à comprendre. Parce que tu vois, ils ont Tyrod Taylor qui est une sorte de sous-sous Cam Newton, quoi. Donc autant prendre Cam Newton. Donc, Raoul, les Patriots. Je te donne la stat, 128.2 d'évaluation pour Cam Newton contre les Patriots. C'est la meilleure équipe. Enfin, c'est l'équipe contre laquelle il a le mieux performé en carrière.
Ah la vache, ça prend les... Non, j'allais dire ça prend les playoffs, mais il n'y a pas de playoffs en fait, puisque
il n'y a pas de division.
Ouais, c'est pas mal, mais en fait, tu vois, ce qui m'y a fait penser, j'aurais été... Avant, j'étais un peu comme Raphaël, je me disais Chargers, il y a plein de choses qui matchent. Et en fait, Chargers, c'est un peu moins une franchise disciplinée comme peuvent l'être les Patriots. Je me dis que c'est une bonne idée, que de toute façon, c'est une équipe qui a pas de soucis à tester des gens, et si ça marche pas, à les changer rapidement. Et le nom, même s'il n'y a plus Tom Brady, fait encore rêver, je pense. Donc, pour Cam Newton, c'est un bon compromis. Tu dis, bah voilà, tu viens tester, tu fais tes preuves, et si ça marche, bah c'est bien. Et si ça marche pas, bah t'iras voir ailleurs. Mais il y a moyen que ça soit quelque chose de sympa, ouais.
Et puis, on l'oublie souvent parce que tout le monde a lié Belichick Brady. Mais Belichick, c'est pas un coach offensif, c'est McDaniels, le coordinateur offensif, qui a drafté Tim Tebow. Donc a priori non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que a priori il est pas totalement fermé à l'idée d'un mec qui peut être un autre profil que Tom Brady.
Oui complètement.
Donc il peut en faire quelque chose. C'est pas hyper fort. Alors par contre, c'est pas une situation folle au niveau des cibles. S'il va à New England, parce qu'il y a toujours le prestige New England, mais en termes de matos autour, les Chargers c'est plus costaud au final en ce moment.
Oui, mais tu l'as dit tout à l'heure, quand il fait sa meilleure saison à Carolina, il avait pas du matos de fou autour de lui, donc pourquoi
c'est vrai.
Pas
C'est vrai. Bon, et puis t'as toujours Julian Edelman quand même. Bon,
et t'as une ligne offensive pas trop mal non plus. Donc bon, voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres destinations possibles? Parce qu'au final, on en a parlé souvent dans des podcasts d'intersaison sur les postes de quarterback à prendre. On va en parler plus tard, mais il y a eu des chaises musicales. Nick Foles est maintenant aux Bears. Les Bengals, on attend plutôt de la draft. Il y a eu la re-signature de Drew Brees aux Saints, donc il n'a pas pris sa retraite. Tom Brady a bougé. Les Buccaneers ont donc un quarterback. Est-ce qu'il y a des possibilités? Miami, c'est libre, mais ils sont vraiment dans un processus de reconstruction. Est-ce que c'est une possibilité crédible?
Bah, Miami, tu retrouves le côté bling-bling de Los Angeles que Raph mettait en avant. Donc là-dessus, ça peut marcher. C'est vrai que c'est un effectif qui redémarre. Est-ce que c'est vraiment le quarterback que tu veux prendre pour relancer ton effectif avec plein de jeunes? Peut-être pas.
J'ai du mal à l'imaginer.
Ouais. Je me demandais sur les destinations, Jacksonville, on en est où sur les quarterbacks?
Bah, il reste plus Garner Minshew.
Et plus grand chose tout court à Jacksonville quand même. Hein, mais
Ouais.
Non mais oui, Jacksonville, ouais. Pourquoi pas. Les Redskins quand même, il y a des rumeurs bizarres autour de Rivera, Dwayne Haskins.
Ouais, c'est la dernière que j'avais. Moi.
Bon, Redskins. Et après, toutes ces questions d'équipes qui sont supposées drafter un quarterback comme les Dolphins, les Chargers, les Bengals. Enfin, on ne sait jamais, une surprise pourrait arriver. Hein, mais,
Ou s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent à la draft, ils peuvent rester rabattre dessus après.
Parce que derrière, moi, j'ai du mal à m'imaginer que Cam Newton prenne un rôle de remplaçant. J'ai quand même vu des articles ricains qui l'envoyaient, qui mettaient dans les meilleures destinations Baltimore en remplaçant de Lamar Jackson.
Ah oh, non. En plus, c'est un peu le même style de quarterback. Enfin, même style, toutes proportions gardées, mais il y a la même idée de pouvoir être une double menace. Ça sert à rien d'avoir deux fois le même quarterback.
Quoi. Ou alors, c'est...
les gens respectent. Pas Newton.
Ouais, ou alors ça c'est des gens qui au contraire j'allais dire ne respectent pas Lamar Jackson en pensant qu'il va finir par s'écrouler, que l'an dernier c'était juste un feu de paille et que du coup avec Newton tu te donnes un joker. Si ça peut être ça aussi que certains voient, moi je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée d'avoir Cam Newton en remplaçant, mais c'est un autre
c'est bancal.
Ouais, je suis pas persuadé non plus. Donc on le disait, Teddy Bridgewater est aux Panthers, on en a pas mal parlé, et Kyle Allen donc va des Panthers aux Redskins. Est-ce que ça a une importance ou pas? Est-ce que c'est une menace pour Dwayne Haskins? Je rappelle, c'est 17 touchdowns, 16 interceptions en 12 matchs l'an dernier, il avait bien débuté. Il a toujours 24 ans. On rappelle qu'il y a Alex Smith qui est en convalescence mais qui est toujours officiellement Redskins aussi. J'ai vu Raphaël hausser les sourcils. Oui, bon, il est en convalescence officiellement.
Non, mais il faut qu'il puisse remarcher un jour avant de repenser au football. Hein.
Est-ce que c'est du coup un prétendant au poste de titulaire? Parce qu'on rappelle que Ron Rivera le fait venir parce qu'il le connaît de Carolina. Ou alors c'est juste pour mettre un peu la pression sur Dwayne Haskins?
Pour le coup, je trouve ça étonnant de faire venir un jeune quarterback comme Kyle Allen pour essayer de remplacer un jeune quarterback comme Dwayne Haskins. Enfin, dans ce cas-là, t'essayes souvent d'avoir un vétéran pour un peu guider l'autre, mais là, j'avoue que je ne sais pas trop.
On verra, et il peut encore se passer des choses à la draft pour les Redskins, tout est fluide. Hein. Nick Foles au Bears. Je suis très dyslexique en ce moment. Donc un choix du quatrième tour de la draft et voilà Nick Foles au Chicago Bears. Est-ce que c'est la fin de Mitchell Trubisky? Est-ce que c'est la progression de Mitchell Trubisky? Est-ce que c'est la pression? Est-ce qu'il y a bataille? Comment vous voyez ça? Nick Foles donc qui rebondit. Je sais pas à combien de maillots il en est, mais il a passé qu'un an à Jacksonville. Raphaël.
Ouais, bah écoute, je pense que c'est pour mettre la pression à Trubisky, hein, clairement. Matt Nagy veut challenger son quarterback en lui apportant un autre quarterback qui a eu des victoires, qui a fait des choses. Voilà, et ils veulent. Je suis pas certain. Je pense vraiment que Trubisky est en danger pour le coup, suivant comment ça va se passer au camp d'entraînement. Enfin, s'ils reprennent, suivant quand ils reprennent et le nombre de semaines que les joueurs auront pour s'entraîner. Non, pour moi, oui, c'est ça, c'est pression. Et Matt Nagy ira vers le moins pire des deux à la fin de l'été, quoi.
Raoul.
Alors moi, je spoil un tout petit peu mes futurs perdants, mais pour moi, c'est une bêtise de faire venir Nick Foles. En fait, surtout pour le prix que tu lui donnes, c'est pas incroyable comme choix. Oui, il a gagné un titre. Oui, il a eu des bonnes équipes. Mais en fait, est-ce que c'est toujours lui qui était vraiment l'élément décisif? Raph a raison de dire que en fait Nagy ira vers le moins pire parce qu'en fait aujourd'hui tu me donnes le choix entre Trubisky ou Foles, ça m'excite pas beaucoup plus que ça quoi, donc c'est étonnant.
Tu fais bien de rappeler que Nick Foles c'est quand même un joueur à la carrière très particulière, 88.2 d'éval en carrière parce qu'il y a des très hauts et des très bas, que c'est très très variable. 80, donc je disais 88.2 d'éval en carrière, en comparaison Trubisky c'est 85.8, hein, donc il n'y a pas un delta monstrueux entre les deux. Et Foles l'an dernier du coup n'a joué que 4 matchs, 65,8% de passes complétées, 3 touchdowns, 2 interceptions, et il se refait mettre sur le banc par Gardner Minshew qui est un 6ème tour de draft. Donc voilà, c'est très particulier la situation à Chicago. Est-ce qu'ils sont pas loin d'être dans cette situation dont on parle souvent du t'as deux quarterbacks et que t'en as pas?
Ah oui, c'est vrai. Moi aujourd'hui, vu les données, je trouve que oui, le choix des deux les fera pas progresser énormément l'an prochain.
Raphaël, je t'ai vu hésiter.
Non, si, ils sont là-dedans. Moi, je pense qu'ils sont, comme tu dis, ce qu'on appelle aussi le purgatoire des quarterbacks, quoi. Ce cercle où l'équipe est jamais assez mauvaise pour reprendre un jeune quarterback prometteur. Mais jamais trop, et a pas trouvé le quarterback qui les fait passer un palier, donc ils sont là-dedans, dans cet entre-deux de mid-tableau. Moi je pense, quitte à échanger cette saison pour un quarterback, ils ont pas fait le bon choix, mais ils auraient dû aller vers Cam Newton par exemple, ou même.
Après, j'allais dire au moment de l'échange, je crois que Newton n'est pas encore coupé.
C'est possible, ouais.
Oui, mais du coup, tu peux aussi échanger pour Newton, tu vois.
Oui,
ça a commencé à sentir les histoires autour de Cam Newton. Ça fait un petit moment que ça a commencé à.
Après, je suppose que la situation coronavirus, visite médicale impossible, etc.
Ça
joue sur le fait
sûr,
que les. C'est vraiment problématique aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, quand tu parlais du « on ne sait pas quand la saison va débuter », j'ai eu une sorte de vision d'angoisse de moi en train de faire le fauteuil avec aucun match derrière et de simuler des matchs en survêt dans mon salon.
Sur Madden.
Ouais, ça va être… Ah mais oui, c'est ça, on fera des journées sur Madden. Bon, voilà pour la situation. Auberz, un tout petit mot sur Jadeveon Clowney. Alors, il est toujours libre au moment où on parle. Il a 27 ans, c'est un pass rusher, 3 sacs, 4 fumbles forcés l'an dernier. Normalement, ça reste pas libre 2 semaines et demie sur la Free Agency. Est-ce qu'on reste aussi là sur des problèmes liés à la situation actuelle? C'est-à-dire qu'il a eu des petits soucis de blessure, les gens voudraient le voir, ils peuvent pas.
Est-ce qu'il n'y a pas la finance aussi là-dedans qui entre en jeu et qui demanderait beaucoup d'argent? J'ai cru voir que c'est les Dolphins qui lui proposaient un beau pactole qu'il aurait refusé. C'est vrai que ça joue. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas en droit aussi de se mettre un peu plus en valeur et d'espérer plus? Parce que, comme tu dis, un joueur de ce calibre-là, normalement, il a le droit d'avoir un salaire important. Enfin, le droit, bon, il peut prétendre à un salaire important, quoi.
Moi, je te dirais qu'il a le droit d'espérer, mais que si je suis dirigeant, j'ai le droit de pas lui donner.
Oui, non, mais ça va dans les deux sens. Hein. Mais voilà, peut-être qu'il se dit, après la draft, il y aura une équipe suffisamment idiote pour me filer le pognon que j'attends.
Raphaël, tu le signes à combien? Bon, après, on n'aime pas trop les calculs de JM dans cette émission, mais c'est un joueur qui a un bon impact, mais on l'a dit, c'est pas un top pass rusher qui fait que tu casses la banque.
Non, c'est pas un top pass rusher. Maintenant, le prix, je sais pas, avec les flambées, toujours, ça reste difficile de mettre un prix là-dessus. Hein, ouais, je sais pas.
Je crois qu'il veut 20 millions par an.
C'est peut-être un poil beaucoup, c'est 20 beaucoup. Millions, c'est un poil beaucoup. Maintenant, après, comme tu dis, je pense que Clowney a quand même eu beaucoup de saisons ralenties par les blessures. Il y a peut-être quand même certaines équipes qui, avant de lui filer ses 20 millions, aimeraient bien pouvoir le tester un peu physiquement. Donc c'est peut-être aussi, lui plus que d'autres, peut-être ça prend un peu de temps dessus maintenant. Je pense que c'est...
Alors, juste pour vous situer les 20 millions dont on parle, Khalil Mack prend 23,5 millions en moyenne, DeMarcus Lawrence 21, Frank Clark 20,8, Von Miller 19, Trey Flowers 18, Yannick Ngakoue 17, Cameron Jordan 17,5, Dee Ford 17, Oliver Vernon 17, Arik Armstead 17.
Bon, bah, voilà. Tu lui files 35 sur 2 ans et puis tu mets la première année garantie et voilà.
Oh, Chandler Jones c'est à 16,5, du coup ça a l'air d'être une super affaire hein, quand tu regardes ça comme ça.
Grave.
Dernier mot sur les gros dossiers, c'est Todd Gurley, coupé par les Rams, signé par les Falcons. Alors, j'ai été assez étonné par l'engouement, réseaux sociaux que ça a fait quand on a publié les articles là-dessus. Moi, honnêtement, j'avais déjà un peu. Todd Gurley était un peu tombé dans l'oubli pour moi, au sens où j'étais déjà assez persuadé que son genou était flingué. Et quand j'ai vu les réactions sur waouh, pourquoi les Rams font ça, etc., et waouh, les Falcons ont réussi à le signer, etc., est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que c'est vraiment une signature importante pour les Falcons et une grosse erreur des Rams?
Moi, je crois que l'erreur des Rams, elle vient surtout du contrat qu'ils lui ont filé. Quand tu vois ce qu'ils lui ont filé il y a 2 ans, qui devait être. Attends, je l'ai noté tout à l'heure en plus, parce que c'est un de mes perdants aussi. Ouais, 57 millions. C'est là où je pense que c'est une énorme erreur des Rams. C'est que du coup, derrière, ils perdent pas mal d'argent. Il doit y avoir 11,5 millions de dead money. Donc, c'est quand même important. Et je pense que c'est là qu'est l'erreur. Et pour les Rams, pour les Falcons, tu prends pas un risque énorme. C'est un coureur qui a quand même été flamboyant quand il avait un genou qui fonctionnait. Bon, bah, voir si le genou tient. Pareil, s'il tient pas, tu le bazardes.
857 yards au sol l'an dernier, c'est sa plus petite saison en carrière. Raphaël, bonne affaire, pas bonne affaire, joueur maintenant
c'est
banal ou pas?
Je pense que c'est une sorte de pari fait par les Falcons. Moi, je suis un peu comme Raoul, je trouve qu'il risque pas grand chose. Si ça marche. C'est un super joueur qui rajoute, c'est un potentiel super joueur qui rajoute dans une attaque qui est déjà bien rodée avec pas mal d'armes, pas mal de matos, mine de rien. Si ça marche pas, bah écoute, tu t'en sépareras et puis la vie continuera à Atlanta qui grâce à Matt Ryan, Julian Jones, a une attaque qui globalement marche année après année depuis pas mal de temps. Donc c'est un peu la cerise potentielle sur le gâteau.
C'est
un facteur X, quoi.
Oui, ouais.
Bon, et puis il a fait son cursus universitaire à Georgia. Il est content de rentrer à la maison. Ça peut être une belle histoire. Mmh. Mais, et il a toujours que 25 ans, Todd Gurley. Ouais. C'est quand même.
Ah ouais, la vache.
Ouais, c'est quand même assez. Ouais,
il a commencé jeune.
Oui, il était arrivé. Il était arrivé avec une année d'avance, je crois, dans la ligue. Mais oui, donc il a toujours que 25 ans. Moi, on a vu l'an dernier. Je pense que c'est compliqué. Faudra peut-être avoir un mec à ses côtés. De toute façon, je sais plus qui il y a Ito Smith.
En fait, je pense que si tu veux la réaction d'une partie des gens, c'est qu'en fait, autour de Gurley, depuis le Super Bowl, il y a une sorte de mystère autour de Todd Gurley et des Rams. C'est que oui, il y a cette histoire de physique. Mais les Rams ont toujours dit que ça allait bien. Il était de moins en moins utilisé. Et puis après, par moments, il a été réutilisé à fond et puis moins. Et il y a toujours cette histoire où, en fait, personne ne sait vraiment si il a vraiment les genoux explosés. Et
ouais,
tu vois, je pense qu'il y a aussi un peu cette part de mystère autour des Rams et de Todd Gurley qui fait que certains veulent plus y croire que pour un Cam Newton qui a l'air plus rincé physiquement pour certains, tu vois.
Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de mystère avec Sean McVay monté à chaque conférence de presse, mais... Après, chacun voit midi à sa porte. Voilà pour les gros dossiers, messieurs. Petit jingle, et puis les gagnants et les perdants.
What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go!
La Free Agency est lancée donc depuis une grosse quinzaine de jours, messieurs. Il est temps de... Alors, c'est allé très très vite au début. C'est pour ça qu'on avait fait une émission spéciale avec Raphaël. Et ça s'est pas mal ralenti depuis. Mais là, il est à peu près temps de faire un bilan. Bon, alors, on aurait bien aimé que Jadeveon Clowney ait signé entre-temps. Mais on s'en contentera. Messieurs... Puis, la Contradwell a signé. Donc, déjà, on a passé le gros de la Free Agency. Donc, on a décidé de faire trois gagnants et trois perdants chacun. Je pense qu'on va faire un chacun notre tour. Plutôt que de faire les trois d'un coup. Ça évitera de faire de trop long dans les monologues. Donc, un chacun notre tour. Raphaël, je te laisse commencer.
Gagnant. Ok. Bah écoute, moi je vais partir sur les Baltimore Ravens, qui sont un de mes gagnants de cette free agency. Plusieurs raisons, hein. Bien sûr le fait d'avoir réussi à faire venir pour un cinquième choix un Calais Campbell sur la ligne défensive, qui est un joueur monstrueux, un vétéran, enfin plus besoin je pense de présenter Calais Campbell à nos auditeurs et qui va apporter en plus cette qualité sur le pass rush dont les Ravens étaient un peu à la recherche. Il y a l'arrivée ce matin de Derek Wolfe, qui est aussi un joueur de rotation comme ça pour le pass rush, qui va aussi apporter à cette équipe. Et puis les re-signatures de Matt Skura, de Jimmy Smith à des prix d'amis, on va dire. Et je rajouterai le fait qu'ils aient réussi à échanger un de leurs 15 tight end Hurst aux Falcons contre un deuxième tour, récupérer mine de rien un petit deuxième tour en plus. Voilà, je trouve que ça fait partie des rares très très bonnes équipes à avoir réussi à s'améliorer encore un peu plus lors de cette free agency. Voilà, des très bons qui s'améliorent encore un peu. À mon sens, ça fait forcément partie des trois gagnants, quoi.
Et Mathieu Judon
qui
reste avec
plus,
le tag,
oui, exactement.
Ouais. Donc, et maintenant que tu le dis, le second tour contre leur tight end, ils ont récupéré la même chose que les Texans pour Deandre Hopkins.
Voilà.
Ce qui est quand même pas mal.
Bah, voilà.
Bon, ils ont pas eu David Johnson dans le lot, mais bon, on pourra leur trouver un coureur flingué.
Puis eux, au sol, ils ont pas trop de besoin. A priori, ça marche. Donc.
C'est vrai qu'en plus, ils avaient pas trop de besoin. Donc, c'est cadeau. Tu vois, ils ont dit non, gardez votre coureur, on prendra juste le deuxième tour. C'est sympa. Raoul, un gagnant.
Du coup, je vais rebondir sur ce dont on vient de parler, mais les Cardinals, pour moi, me semblent. Un gagnant assez évident de cette intersaison, rien que déjà par le trait de DeAndre Hopkins. Tu laisses partir David Johnson, qui oui a eu des belles heures, mais qui pour le coup a plutôt eu des belles heures à l'infirmerie récemment, donc c'était un peu plus compliqué. J'ai trouvé une stat sympa sur ESPN, que l'an dernier les Cardinals, ils ont joué 328 snaps sur l'année avec 4 receveurs ou plus. Tu rajoutes DeAndre Hopkins là-dedans, ça veut dire que t'as beaucoup moins de possibilités qu'il ait deux défenseurs sur lui, pour Kyler Murray, ça va être du pain béni. Donc rien que ce move-là, je trouve, fait énormément de bien aux Cardinals. Et puis, tu as des ajouts sympas. Jordan Phillips, le tackle, qui vient aussi. Tu perds pas trop de monde. Tu fais re-signer Kenyan Drake. Tu gardes Larry Fitzgerald aussi, qui va avoir un impact qui est toujours... toujours aussi fort malgré son âge avancé, si j'ose parler en des termes aussi peu respectueux. Mais pour moi, c'est vraiment une super intersaison du côté d'Arizona.
Est-ce que je dis une bêtise, parce que je ne les ai pas tous en tête, hein, donc je vous demande, est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'ils ont le meilleur groupe de receveurs de la Ligue avec Larry Fitzgerald, DeAndre Hopkins et Christian Kirk sur le trio?
Oui, c'est possible. En plus, ils peuvent drafter. Ils peuvent drafter encore pour améliorer ça. Je sais plus où ils sont dans la draft, mais il y a de quoi faire aussi. Donc,
parce que là, c'est pas mal, quoi. Alors, t'as les deux pro bowlers à Tampa avec Mike Evans et Chris Godwin. Il y a Emmanuel Sanders qui rejoint Michael Thomas à New Orleans. Mais sur le trio, sur le trident, Hopkins, Kirk et Fitzgerald, en tout cas, ils vont être durs à aller chercher.
Ouais, c'est
clairement.
Fort,
et je rajoute à ce que tu dis, Raoul, parce que j'ai la fiche de toutes les signatures là, du site sous les yeux. Ils ont aussi gardé Chris Banjo, qui est quand même un des noms les plus cools de la ligue. Donc,
Bien sûr.
Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est à moi du coup pour les gagnants. Tiens, j'en parlais, les Saints. Donc tu récupères Malcolm Jenkins qui connaît la maison et qui revient. Bon, alors c'est plus le niveau, il a baissé un peu de niveau, mais ça reste quand même un joueur solide, expérimenté, qui connaît le haut niveau. Emmanuel Sanders, je sais plus pour qui je leur avais envoyé dans une des émissions de preview où j'avais dit qu'il fallait un deuxième receveur et que je leur envoyais un deuxième receveur. Mmh. Je crois que c'était Robbie Anderson. Ouais. J'avais dit que ce serait sympa s'il signait Robbie Anderson. Bah écoute, Emmanuel Sanders, c'est pas mal aussi.
Ouais, c'est bien.
Voilà, dans cette idée-là de mettre un mec à côté de Thomas, ça me va très très bien. T'as re-signé Drew Brees sans faire d'histoire. T'as re-signé Andrew Spitt, Ryan Ramczyk. Les Saints qui montrent comme tous les ans que le salary cap, on s'en fout. C'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver toujours à gérer. Tous les ans, ils sont à la limite. Tous les ans, ils arrivent à re-signer Drew Brees pour 25 millions et à garder des mecs autour. Donc voilà, ils ont perdu Ted Ginn, mais vaut mieux Sanders. Edgy Klein et Eli Apple, bon, c'est pas dramatique. Von Bell, c'est comblé par Jenkins. Donc ils vont être encore une fois prétendants au titre de la division, de la conférence et probablement du Super Bowl. Donc voilà, c'est des très forts mais qui restent au moins aussi forts, ce qui n'est pas toujours facile avec le salary cap. Donc clairement déjà vainqueur et en plus ils ont encore la draft qui arrive derrière.
Après attention, la division elle est devenue de fait un peu plus relevée. Hein.
C'est vrai qu'on n'a pas fait la remarque je crois dans l'émission où on parlait de Brady, mais tout le monde s'est foutu de sa tronche qui jouait dans la FCS pendant des années avec les Patriots. Là, il a pas pris la division la plus simple.
Non, c'est sûr. En termes de quarterback, c'est rigolo.
Parce que va falloir se coltiner quand même Saints, Falcons et Panthers. Ça va être rock'n'roll.
Pardon.
Et oui, il y a plus Cam Newton, ouais. Mais c'est bon, vrai. Teddy Bridgewater, Christian McCaffrey, il y a du matos quand même.
Il y a de quoi faire. La division est beaucoup plus relevée que la FCS en tout cas.
Est-ce que les Panthers sont moins bons que toutes les autres équipes de la FCS ces dernières années?
Non,
le deuxième gagnant de Raphaël.
Écoute, en parlant d'AFC Est, moi j'ai beaucoup aimé l'intersaison des Dolphins. J'ai trouvé qu'il y a un cap assez clair. Ils avaient un effectif qui manquait de joueurs sur à peu près tous les postes, qui manquait de leadership, tout ça. Et là, je trouve qu'ils ont fait des ajouts très intéressants à ce niveau-là. Ils font venir Byron Jones, ils font venir Kyle Van Noy, l'ancien linebacker des Patriots. Ils font venir un joueur comme Samuel Grugier-Hill, qui était linebacker chez les Eagles, mais qui était surtout capitaine d'équipe spéciale, joueur très important sur les équipes spéciales. Il y a plein d'ajouts à mon sens qui sont assez intéressants, qui permettent tout de suite d'améliorer l'effectif qualitativement et quantitativement, parce que c'était un vrai problème des Dolphins de pas avoir de joueurs de rotation. Là quand même ça comble pas mal de besoins, et dans cette optique là je trouve ça intéressant de mettre une première pierre de construction où t'as des joueurs qui sont peut-être pas tous des top players mais qui cette année vont pouvoir être titulaires, et suivant comment les drafts se passent cette année et l'an prochain, certains des joueurs vont peut-être même devenir naturellement remplaçants, mais ça te fera un groupe de remplaçants aussi solide. Moi j'aime bien, je trouve, tu sens une construction, un cap à long terme. Ils vont avoir 9 choix sur les deux premiers tours cette année et l'an prochain. Ils vont pouvoir profiter a priori d'un quarterback qui aura un contrat rookie. Donc cette année c'est une première pierre pour faire venir du monde et redonner d'autres contrats. Voilà, moi je trouve que ça va dans le bon sens et que c'est cohérent et qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi, donc bravo à eux.
Ça, c'est rigolo,
c'est vrai que
parce
qu'il y a du matos, ouais.
Je lisais sur pas mal de sites américains les différents gagnants et perdants des différentes rédactions, et les Dolphins sont soit en gagnant, soit en perdant. Justement parce que d'un côté, certains disent « bah oui, c'est bien, ils construisent, ils se remettent bien en route », et d'autres qui disent « on sait pas où ça va et ça peut se péter la gueule à tout moment ».
Ouais, bah comme quoi.
Mais c'est intéressant.
C'est vrai qu'il y a de la quantité, donc faut voir ce qui va accrocher quoi, en fait, sur le lot. Mais sur le potentiel, il y a plein de bonnes choses. Il y en a aucun qui va révolutionner la franchise, mais il y a plein de ciments en fait.
Mais moi je pense, mais peut-être que je me plante, hein, mais que c'est vraiment presque une intersaison en deux temps cette année et l'an prochain côté Dolphins, et que là c'est presque une intersaison où tu fais venir des joueurs moyens mais des caractères à la Van Noy, à la Grugier-Hill, des joueurs importants à ce niveau-là qui cette année vont être titulaires parce que l'effectif est faible, mais qui l'année prochaine, suivant les bonnes drafts, suivant d'autres ajouts, pourrait presque glisser remplaçant, mais te permettre d'avoir un groupe étoffé de 53 joueurs, en fait. Donc je le vois presque en deux temps, et à ce niveau-là, moi, je trouve ça plutôt intelligent. Après,
tu sens que Brian Flores était un mec des Patriots sur le recrutement.
Bah, en tout cas, il semble plus inspiré qu'un autre ancien, enfin que plusieurs autres anciens Patriots. En tout cas.
C'est vrai, c'est pas la même chose que Patricia. Ouais. Deuxième gagnant pour toi, Raoul.
Deuxième gagnant, les Tampa Bay Buccaneers, pas besoin d'en faire des tonnes, rien que l'arrivée de Tom Brady déjà pour les caisses de la franchise. Je lisais encore sur ESPN que en termes de, évidemment, de revenus pour les abonnements, c'est exceptionnel. Au-delà de l'arrivée de Tom Brady, ils ont bien géré le renouvellement de certains contrats, alors, de garder Shaquille Barrett avec le tag, de garder Jason Pierre-Paul, de garder Ntamu Kongsu. C'est des membres importants du vestiaire, je pense, en défense. Et puis, j'étais content aussi de voir qu'ils ont re-signé le tight end d'Anthony Auclair qui jouait au Rouge et Or de Laval, que j'avais vu jouer à l'époque. Voilà, c'était la petite stat en plus.
C'est sûr que s'ils renforcent la couverture aérienne maintenant à la draft, ce qui serait une bonne idée, mais ils ont gardé des éléments de leur défense au sol qui étaient plutôt très bonnes.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Qui était numéro 1 d'ailleurs, oui. L'année dernière. Donc oui, non, mais puis, comme tu dis, l'arrivée de Tom Brady, ça galvanise
rien que ça, voilà, normalement ça devrait suffire.
Il y a Shaquille Barrett qui annonce qu'ils sont prétendants, enfin ils sont tous chauds.
Attention
bouillons.
Quand même, hein. On les connaît, ces déclarations.
Moi j'ai en deuxième les Broncos qui ont réussi, on parlait d'échanges déséquilibrés de Jurel Cazé contre un 7ème tour. Je pense que celui-là il est quand même particulièrement gratiné, donc rien que pour ça, t'es dans les vainqueurs. Et Jeboui qui vient pour combler le départ de Chris Harris, Graham Glasgow pour renforcer la ligne, Melvin Gordon, alors j'étais pas fan en numéro 1 aux Chargers ou quoi, mais en complément de Philippe Lindsay, s'il accepte d'être dans un rôle avec un one-two punch, tu commences à avoir quand même un truc costaud. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est un peu comme tu disais avec Miami, Raphaël, c'est la construction. S'ils croient en Drew Lock comme leur quarterback, bah, ils renforcent la défense et le jeu au sol pour essayer de le mettre à l'aise. Maintenant, il va falloir évidemment drafter du receveur et trouver des cibles pour lui. Mais il y en a déjà une très bonne, hein, en plus, avec c'est Courtland Sutton. Je m'embrouille des fois sur les noms. Mais voilà, mais s'ils croient en Locke, tu as une défense qui était déjà bonne, en tout cas qui avait déjà des très bons éléments, bah, tu rajoutes encore avec Jurel Cazé au milieu, t'as Ejebui, tu remets un coureur de plus, tu remets un lineman de plus. On a vu que la recette marchait pas mal ces derniers temps. Donc clairement, voilà, ils ont perdu Derek Wolfe et Chris Harris qui sont des bons joueurs, mais t'as Jurel Cazé et Ejebui qui arrivent, donc ça me choque pas plus que ça. Donc j'aime bien la logique aussi de cette construction-là, en espérant pour eux que ça marche avec Drew Lock. Je les ai vus revenir un peu dans les rumeurs de temps en temps, alors pas dans les rumeurs, mais dans les suppositions de journalistes américains pour Cam Newton. J'avoue que je suis pas fan du truc, parce que si Drew Lock a trouvé un peu son rythme en fin d'année dernière, je trouve qu'ils construisent bien là-dessus, et c'est pour ça que moi je les mettrais dans les vainqueurs.
Ouais, est-ce que tu mets vraiment Von Miller et Cam Newton dans le même vestiaire?
Bah, ils se rappelleraient des souvenirs, là. Il se parlerait du Super Bowl 50. Alors, t'as plongé ou pas?
Bah ouais, c'est ça. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Ouais, ce serait original. Troisième vainqueur, Raphaël.
Alors, troisième vainqueur, j'ai un peu hésité parce qu'au moment où on enregistre, cette équipe a pas forcément de quarterback titulaire, ou en tout cas, Tyrod Taylor en quarterback titulaire, ce sont les Chargers. Donc, est-ce que quand tu sors de la free agency avec Tyrod Taylor en quarterback, tu es forcément un gagnant de celle-ci? Je suis pas certain non plus. Mais malgré tout, je trouve que les acquisitions qui ont été faites à côté sont quand même de très très haute qualité. On a Brian Bulaga et Trey Turner pour la ligne offensive. Donc là, ils solidifient un poste de tackle, un poste de garde, avec des joueurs qui ont un calibre pro-bowler quand même depuis leur entrée dans cette ligue assez régulier. Ils font venir Chris Harris Jr. dans le backfield défensif qui était déjà bien chargé côté Chargers et qui là récupère un super slot corner. Chris Harris va pouvoir retourner dans le slot, il va pas être obligé de jouer sur l'extérieur, donc je pense que pareil, on va avoir une très très belle saison de son côté. Et moi, ce qui me gênait depuis 2-3 saisons du côté des Chargers, c'était la défense contre la course. Et là, en milieu de ligne, ils font venir Linval Joseph, l'ancien joueur defensive tackle des Vikings, qui pareil, a un niveau pro bowler, limite, même sur certaines saisons, qui était pas loin du All Pro. Voilà, je trouve ces 4 titulaires directs, indiscutables, qui arrivent dans l'équipe, qui renforcent des secteurs qui avaient besoin d'être renforcés. Moi, la ligne défensive, Bosa, Ingram, Joseph, elle m'intéresse pas qu'un peu. Clairement, donc voilà, je trouve que c'est une équipe qui vraiment devient sur le papier très très complète, si ce n'est cette interrogation au poste de quarterback qui est très importante, hein, parce que on parle du poste de quarterback. Ouais, en plus de ça, ils gardent Hunter Henry et Austin Eckler aussi en attaque, qu'ils ont réussi à re-signer l'autre franchise tag. Voilà, je trouve que c'est vraiment une intersaison bien, bien gérée sur tous ces dossiers-là. C'est une équipe qui, pour moi, progresse vraiment sur le papier. Donc, je me dis qu'ils sont à l'élément clé au poste de quarterback pour faire une très belle saison, quoi.
C'est clair que si Tom Brady s'était pointé là, il n'aurait pas été dans les mauvaises conditions.
Non. Ah bah là, on aurait bien rigolé, ouais.
On rappelle, il a aussi choisi Tampa. Il y avait une histoire de proximité avec la côte Est parce que son fils est du côté de New York. Mais oui, non, clairement, c'est recrutement. Il y a, pour le coup, les Chargers, c'est autant on a parlé de Miami où il y a beaucoup de choses. Les Chargers, c'est sur la qualité, quoi. Ouais. Ils ont été très très forts sur quelques recrutements, mais de très bonne qualité. Raoul, ton troisième.
Mon troisième, c'est les Colts, un peu dans la continuité des Chargers, du coup, puisque eux, c'est les mecs grands gagnants parce qu'ils recrutent déjà Philip Rivers. Ça, c'est vraiment incroyable. Non, au-delà de ça, au-delà de la blague et de l'admiration que j'ai pour lui, c'est déjà il aura une vraie ligne offensive pour le protéger, donc on va pouvoir voir ce qu'il vaut un peu à ce niveau-là et s'il a pas trop perdu. L'autre bon recrutement, c'est quand même d'avoir réussi à faire venir Xavier Rhodes pour un an seulement en remplacement de Pierre Désir au poste de cornerback. Xavier Rhodes qui a quand même été All-Pro lui aussi en 2017, si je dis pas de bêtises. Oui, qui fait un peu moins bien depuis, mais on sait qu'il a ce potentiel-là, et encore une fois, tu t'engages pas trop financièrement. Tu fais venir DeForest Buckner, oui, pour un premier tour, mais honnêtement, ça les vaut. Et cette équipe-là, qui était aussi très bonne l'an dernier, avec Rivers, qui est comme vétéran à la tête de l'attaque, à tout moment, ça peut... Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous ne m'entendez plus?
Non, c'est bon, c'est Raphaël qui avait peur de nous perdre.
Ah, très bien. Bon, ben voilà. Moi, je suis convaincu que les Colts font une très bonne intersaison, pas trop chargée, mais ciblée comme il faut.
Raphaël, tu es avec nous?
Oui, tout à fait.
Bon, excellent. Ça va. Je crois que tu as eu peur de nous perdre. C'est vrai que c'est étonnant hein, de ce live, mais visiblement, c'est en Bretagne que la connexion est la meilleure. Non, mais oui, donc totalement assez d'accord avec toi, Raoul. Après. Rivers, on verra. Hein.
On verra, Raphaël, évidemment.
Raphaël, tu es convaincu par Philip Rivers? On avait déjà parlé dans l'émission.
Oui, je ne suis pas forcément très convaincu maintenant sur un contrat de deux saisons, avec l'idée qu'il drafte probablement quelqu'un cette année. Je trouve que voilà, il se donne l'espoir, si ça matche bien, de faire quelque chose. Et au pire, ils auront un rookie qui apprend un an derrière Philip Rivers.
Moi j'aime bien en tout cas, merci à Raoul d'avoir illustré ce que je disais sur la manière dont on donne des excuses aux autres quarterbacks par rapport à Cam Newton quand il a dit maintenant que Rivers aura une ligne, on va pouvoir voir ce qu'il vaut. Le mec a 38 ans, on sait un peu ce qu'il vaut quand même, non?
Oui, bien sûr qu'on sait.
Il me reste un vainqueur. J'allais m'oublier. Les Bills en troisième vainqueur. Stephon Diggs qui apporte une cible numéro 1 importante. Alors, c'est un gros investissement, mais il y a un besoin et c'est un joueur dont on connaît le potentiel. Donc, je vais pas. Alors, si vous découvrez l'émission, je suis plus fan des joueurs confirmés que des choix de draft. Donc, voilà. Et derrière, il y a Daryl Williams et Quinton Spain qui arrivent sur la ligne. C'est de la profondeur, mais c'est toujours bien. Et puis en défense, Mario Addison 9 sacs et demi. Vernon Butler 6 sacs l'an dernier. Quinton Jefferson 3 sacs et demi. 26 ans, Vernon Butler avec 25 ans aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de Carolina hein, d'ailleurs, ou qui sont passés par Carolina puisqu'ils ont recruté Josh Norman aussi qui a de l'expérience et qui a joué un Super Bowl mine de rien. J'y repensais l'autre jour, je me disais, vous vous rendez compte que c'était pas il y a pas si longtemps qu'une équipe menée par Cam Newton et Josh Norman était au Super Bowl quand même. Aujourd'hui, ils ont plus tout à fait la même cote. Donc voilà, mais donc il y a eu des recrutements en défense, même s'ils ont perdu quelques joueurs en défense, mais ils sont très bien coachés de ce côté-là du ballon, donc je m'en fais pas. Et en plus, Addison, Butler, Jefferson, il y a de la matière pour que ça continue à être très bon en défense. Et puis Stephon Diggs, encore une fois, c'était important quoi. Il faut apporter des cimes maintenant à un joueur comme Josh Allen. Ils ont aussi re-signé Jordan Poyer notamment. Donc voilà, c'est bien mené, c'est dans la continuité du projet, j'ai envie de dire. C'est leur projet. Donc ça en fait des gagnants pour moi. On passe aux perdants, messieurs. Raphaël, on te laisse commencer. Le premier perdant de cette fréquence.
Premier perdant, je vais repartir sur un ancien disciple de Bill Belichick. Pour moi, ça va être donc les Lions de Matt Patricia et Bob Quinn, le general manager. Je comprends pas très bien en fait le plan là du côté de Détroit, c'est plus ça qui m'embête parce que on sait pas vraiment est-ce que c'est de la reconstruction ou pas. Ils font partir quelques-uns de leurs meilleurs joueurs de l'an dernier, donc Darius Slay, Graham Glasgow, le lineman offensif, Damon Harrison, Devon Kennard qui étaient tous les quatre des titulaires, mais dans le même temps tu fais venir Jimmy Collins, Duron Harmon, Bon, voilà, je sais pas vers où ils veulent aller. En plus, pour le coup, je pense qu'ils prennent cette connexion ancien des Patriots vers Matt Patricia avec Duron Harmon, Danny Shelton et Jamie Collins me fait un peu douter. Autant Duron Harmon, je pense que ça va bien se passer. Autant Jamie Collins, c'est pas le linebacker.
On l'a vu à Cleveland.
Ouais, c'est pas le linebacker que j'aurais pris. Enfin, par exemple, Miami me semble avoir fait un meilleur choix avec Kyle Van Noy, plus sérieux que Jamie Collins pour le coup. Voilà, il y a un Desmond Trufant qui arrive pour remplacer un Darius Slay, mais Trufant, ça fait 2 ans qu'il a pas fait de saison complète, qu'il est au ralenti. Je sais pas. Pour moi, ils sont ni dans la reconstruction, ni dans construire une équipe solide pour Matthew Stafford. Je sais pas où ils vont. Je sais pas quelle est la ligne conductrice. Je sais pas.
Ouais, totalement d'accord. Moi, j'ai rien à ajouter, Raoul.
C'est tout bon.
Enfin, mauvais, quoi. Ton premier perdant, Raoul.
On en a un peu parlé tout à l'heure, les Bears pour moi font une intersaison discutable, rien que déjà sur le poste de quarterback, donc ok tu fais venir Nick Foles pour mettre la pression à Trubisky, mais je suis pas sûr que tu sois gagnant que l'un ou l'autre finisse titulaire. Tu fais venir Jimmy Graham pour 16 millions sur 2 ans. Jimmy Graham, j'ai regardé ses stats précises sur l'an dernier, donc 38 réceptions, c'est le 105e de la ligue, 447 yards, 94e, 3 touchdowns, 73e et 11,8 yards en moyenne par réception, 69e de la ligue. Donc c'est pas très bon, c'est même assez mauvais, et donc je comprends pas pourquoi tu lui donnes autant d'argent. 30 millions garantis pour Robert Quinn, mais qui a déjà 30 ans, qui a fait une bonne saison l'année dernière. Bon, est-ce que ça les vaut? Je suis pas sûr.
Ouais, ça c'était une belle surprise, Robert Quinn.
Et enfin, tu laisses partir ton premier choix de draft de 2016, Leonard Floyd. Alors oui, qui n'a peut-être pas répondu aux attentes, mais peut-être qu'il y avait moyen d'en tirer un peu d'argent en l'échangeant quelque part. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises opérations du côté des Bears, et je vois pas bien comment ça va les faire progresser.
Raphaël, quelque chose à ajouter là-dessus?
Non, globalement assez d'accord. Pareil, je vois pas de progrès ou d'amélioration à divers endroits. Bon.
J'enchaîne alors avec mon premier perdant, et c'est les Patriots. Ça me fait bizarre de les mettre dans les perdants de quelque chose, il y a eu un tout, hein, en disant on va attaquer notre 10e saison d'ailleurs, je le précise. Hein, à la rentrée, ce sera la 10e saison du podcast. Après, c'est les Patriots, c'est Bill Belichick, c'est tout ça. Hein, mais t'as perdu Tom Brady, qui est 6 fois vainqueur du Super Bowl. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé dans la dernière émission, mais je trouve que on l'a pas dit assez, mais c'est quand même sacrément de leur faute, parce que visiblement, ça leur faisait beaucoup de mal d'être un peu reconnaissant envers lui, surtout Bill Belichick, si on a bien compris les articles des différents médias américains qui sont sortis. Alors, ils ont allumé quelques contre-feux dans la foulée de sa signature à Tampa en disant « Ouais, mais on se serait aligné sur ce contrat-là s'il était revenu vers nous. » Mais visiblement, ils l'ont tellement pas respecté qu'au bout d'un moment, il a même pas eu envie de revenir vers eux. Donc, voilà. Et au bout d'un moment, c'est quand même le mec qui t'a fait gagner 6 titres, quoi. Donc, un peu de reconnaissance. Ouais. Parce que... Tu vois, quand tu vois la manière dont Drew Brees est traité par les Saints et la manière dont ça s'est passé avec Tom Brady et les Patriots, C'est qu'il a toujours dû courir derrière ses extensions ou ses prolongations de contrat quand il voulait un peu plus ou quoi. Alors que Breeze, il se passe jamais rien. Il dit si je reviens, c'est avec les Saints. Bon, je reviens. Ok, bon, le contrat il est fait. Merci, au revoir. Bref, c'était une aparté. Mais derrière, donc Tom Brady est parti. Tes quarterbacks, c'est Brian Hoyer et Jared Stidham. Donc voilà. Ils ont perdu quand même aussi Joe Tunney. Non, ils gardent Jotunay, pardon, avec le franchise. Autant pour moi. Mais ils ont perdu quand même. Alors évidemment, ils vont savoir se renouveler. Je suis pas fou non plus, mais ils vont savoir se renouveler. Mais ils ont quand même perdu des éléments importants dans leur défense avec Jamie Collins, Kyle Van Noy, Duran Harmon. Ils perdent Steven Gostkowski, leur kicker. Alors évidemment, qui était en baisse de régime aussi. Mais voilà, ils ont beau avoir le meilleur coaching du monde, ce qui est le cas, hein. Mais il n'y a pas une galaxie où tu peux pas dire qu'ils ont gagné cette intersaison. Pour l'instant, voilà, ils sont dans les perdants. Il y a un petit feeling pour les fans de basket, un peu Chicago Bulls 98, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une très grande équipe, mais là, voilà, il y a plein de gens qui partent, il y a une fin de cycle. Donc voilà, il va falloir voir comment ils reconstruisent. J'en doute pas qu'ils peuvent le faire, mais pour l'instant, je vois pas comment les mettre dans les gagnants. T'as perdu un des meilleurs quarterbacks de la ligue, donc voilà, ils sont dans les perdants. On enchaîne avec le suivant, Raphaël.
Ouais.
À moins que vous n'hésitez pas, hein, si vous avez quelque chose à ajouter derrière. Hein.
Non, juste ce que tu disais sur Brady qui a toujours dû se battre un peu pour ses contrats. C'est un peu à New England, il y a toujours l'institution avant les joueurs, quels que soient les joueurs. Donc
ouais,
voilà,
même
je suis d'accord que c'est le plus grand joueur de leur histoire.
Matthew Slater.
Voilà, grand débat encore une fois de Matthew Slater, mais bon voilà, ça me surprend moins que Drew Brees où effectivement c'est vraiment l'ambiance, la famille, les Saints, tout ça. Bon.
Non mais tu vois, moi ce qui me fait mal pour Brady, c'est que je crois qu'il a souffert du syndrome du gamin qui a habitué ses parents à être trop bon à l'école. Tu sais, qui ramène des 18 sur 20 tout le temps et au bout d'un moment ils lui font ouais c'est bien. Ah oui c'est bien, c'est normal quoi, c'est normal que t'aies des bonnes notes. Et au bout d'un moment ce gamin là, quand il voit ceux qui ont 12 ou 15 être super félicités, tu vois, il se dit mais pourquoi moi mes parents ils réagissent jamais quand je ramène des 18, tu vois, genre ils sont là, bah c'est normal.
C'est incroyable comme comparaison.
Tu vois, et donc au bout d'un moment il en a eu marre, il a dit mais Belichick à chaque fois je lui ramène des 18 et des 20 sur 20, il est là genre ouais c'est normal. Ouais, bah bien sûr, tu me fais des cadeaux sur ton contrat, mais c'est normal. Bah ouais, mais c'est normal. Et au bout d'un moment, il en a eu plein le cul. Il a dit, mais attends, les autres, ils ramènent des 15, leurs parents, ils leur font la fête, ils leur offrent des vélos et tout. Et moi, non, rien.
Est-ce qu'on sent du vécu ouais, ou pas, bizarre, là ouais. Parce que c'est quand même hyper, hyper crédible. Hein.
Pas de commentaires supplémentaires.
Très bien.
Bon, non, mais voilà, mais je trouve qu'ils l'ont un peu mal géré à ce niveau-là.
Oui,
enfin,
oui.
Je sais pas, tu vois, même la déclaration de Robert Kraft qui dit moi je voulais que Brady revienne, mais c'est une relation où des fois il y a votre femme qui pose problème ou je sais pas quoi. Il avait l'air grosso modo de dire ça se passait plus bien avec Belichick,
oui,
et il s'est cassé pour ça quoi.
De toute façon, même ça se voit. Moi j'ai trouvé la façon de Tom Brady, pareil, d'annoncer et de quitter la franchise assez plate et morne pour un joueur qui a autant marqué cette franchise. Je veux dire, t'as cette espèce de mémo d'une page, salut, enfin. C'était un peu bon, t'as l'impression quand même qu'effectivement c'était un peu une sortie, une fin en eau de boudin, sans vraiment le dire, parce qu'il y a quand même trop de respect entre chacun de ces gens-là pour tout balancer d'un coup et dire qu'ils aillent se faire, voilà, trop de respect. Mais tu sens qu'effectivement ça passait plus. Après, bon, c'est toujours dur de se mettre à la place d'un type comme Belichick ou pas. Hein. Lui, il a senti que c'était le moment de tourner la page. Visiblement, du coup, les échos qu'il y a, c'est que ça fait de plus en plus longtemps qu'il pense qu'il fallait tourner la page. En tout cas, il y a les rumeurs autour de Garoppolo reviennent un peu de temps en temps, que lui, il voulait faire de Garoppolo le successeur et que ça a duré trop longtemps. Bon, écoute, il a sa vision. L'avenir lui donnera tort ou raison, on le verra.
Oui, oui, oui. Mais tu vois, moi, je redis ce que j'avais dit dans la dernière émission, par contre, c'est que je comprends pourquoi Brady, et je pense pas que ce soit un hasard qu'il choisisse un mec comme Arians. Parce
non,
que Bruce Arians
ouais.
va sauter partout, va lui sauter au cou quand il mettra un touchdown, et il va s'éclater un peu. Et on l'a déjà dit, dans le grand ordre des choses, plus personne ne se souviendra de cet épisode à Tampa, et sa carrière, ce sera les Patriots,
oui,
comme Montana, c'était les 49ers, etc.
Ouais,
mais je pense que.
Sauf s'il gagne un titre. Ouais, voilà.
Sauf s'il gagne un titre. Mais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que. Lui, il s'accorde ce truc-là de se dire peut-être pendant un an ou deux, je veux kiffer avec un mec qui va être expressif, qui va me dire c'est bien, tu cartonnes, on s'amuse, on voilà. Bon, voilà. On a fait long sur mon perdant Patriots. Dès qu'on parle de Tom Brady, ça allonge.
Eh oui.
Le deuxième perdant, Raphaël.
On va du côté de New York et des Jets. Parce que pour moi, une intersaison assez décevante en termes de qualité. Ils avaient pas mal d'argent à dépenser, nos amis new-yorkais. Et à la fin, quand tu vois les arrivées sur la ligne offensive, parce qu'en gros, il y avait deux gros chantiers, à mon sens, côté Jets, c'était la ligne offensive et des cibles pour Sam Darnold. Je vois la ligne offensive, signature de George Fant. Est-ce que c'est un tackle meilleur que Kelvin Beltschaum? J'en suis pas sûr, en plus, il a des problèmes de blessure. McGovern au centre, qui a fait une seule bonne saison, l'ancien des Broncos, mais c'est tout. Voilà, moi je trouve que à ce niveau-là, sur la ligne offensive, avec l'argent qu'ils avaient, les atouts qu'ils avaient, c'est raté parce qu'ils auraient dû aller chercher un Trent Williams par un trade, ou un Marcus Peters qui a été coupé, ou un Brandon Scherff, j'en sais rien, mais ils auraient dû faire mieux que ça parce que c'est des joueurs à peine meilleurs que ce qu'ils avaient. Et puis surtout, au niveau des cibles, ils ont perdu Robbie Anderson.
Et pour... qui était probablement leur seul rayon
qui était soleil, leur meilleur receveur. Ouais. Ils le remplacent par qui? Brashan Perryman, qui a fait une belle fin de saison l'an dernier à Tampa Bay, mais dans un système très explosif, très aérien. En plus, Perryman profitait quand même du fait qu'à côté de lui, il avait Godwin et Mike Evans qui attirent un peu d'attention quand même des défenseurs adverses. Là, si c'est le numéro 1 côté Jets, le pauvre Sam Darnold, enfin voilà, moi je trouve qu'offensivement, ils devaient renforcer l'attaque, ils avaient de l'argent pour le faire, et que l'attaque en sort à peine renforcée. Donc pour moi, c'est vraiment des perdants.
Mais alors, tel quelqu'un qui partagerait des infos sur le coronavirus sur Facebook, je vais dire un truc que j'ai absolument pas sourcé. donc c'est une rumeur totale. Non mais les joueurs parlent. Est-ce qu'Adam Gaze au bout d'un moment est pas un repoussoir aussi à Free Agent, quoi?
Peut-être. Franchement, c'est pas improbable. Hein. Au bout d'un moment, ça s'est mal passé à Miami. Là, il a viré toutes les fortes têtes. La première saison chez les Jets, ça se passe moyen. Il y a quand même, on sent qu'il y a un petit problème avec Le'Veon Bell. Il y a des soucis. Bon, bah peut-être qu'effectivement, certains se disent, mais attends, je vais pas dans ce bourbier là. Peut-être.
Je vais en faire une vidéo Facebook du coup. Ce qu'on vous cache sur Adam Gaze. Tu sais, je vais prendre une sorte de voix moralisante. Je ne réunis que des faits, mais c'est troublant. Raoul, ton deuxième perdant.
Deuxième perdant, j'ai donné les Cardinals en vainqueur. Je suis obligé de donner les Texans en perdant. Encore une fois, ce trade Hopkins-Johnson sur le coup m'a démoralisé en fait. Pour les fans des Texans, je me dis mais quelle tristesse. J'ai lu un tweet qui m'avait fait trop rire à ce moment-là qui disait les fans des Texans se sont endormis et ils n'avaient pas de premier tour de la draft. Ils se sont réveillés, ils n'avaient plus DeAndre Hopkins et toujours pas de premier tour de la draft. Donc c'est quand même hallucinant d'imaginer qu'ils aient fait cet échange-là. Peut-être qu'on sait pas tout, hein. Peut-être qu'Hopkins est parti en foutant le feu au vestiaire ou je sais pas quoi, mais c'est hallucinant quand même sur le papier. D'autant que derrière, tu fais venir Randall Cobb à qui tu files 27 millions sur 3 ans. Tu pouvais pas te donner cet argent à Hopkins? Enfin, genre, allô? C'est juste rien que pour ça, les Texans pour moi perdent.
Bah ouais, et puis il y a rien pour compenser.
Ça, et puis ils ont aussi perdu DJ Reader sur la ligne défensive qui est un très bon defensive tackle assez jeune. Bon, ils perdent quasiment. Ils perdent leur meilleur joueur offensif et un de leurs 3-2, même je dirais top 2 joueurs défensifs. Bon, voilà, mais...
Une bonne petite intersaison donc du côté de...
Ah oui, bonne petite, ouais.
En deuxième, moi j'ai les Panthers, alors je vais pas épiloguer parce que du coup on en a pas mal parlé, mais je comprends pas trop le pari Bridgewater. Derrière, tu perds aussi Trey Turner, Darryl Williams, Dontaripo, Mario Addison, Vernon Butler, Greg Olsen. J'espère que leur nouveau coach sait ce qu'il fait, j'espère que ces nouveaux schémas sont vraiment géniaux. A priori, sur la profondeur, je trouve qu'ils ont forcément un moins bon effectif qu'il y a un an. Après, ils ont. Alors, si Robbie Anderson donne une nouvelle dimension à leur jeu aérien, si Russell Okung reste en bonne santé, peut-être que j'aurais tort, je leur souhaite. Mais voilà, sur la profondeur et le pari Bridgewater, je suis pas fan de cette intersaison.
Ah, bah, la profondeur, et même parce que leur nouveau coach qui a l'air d'être un esprit offensif, peut-être qu'il va faire effectivement mieux avec Okung et Anderson dans ce jeu, peut-être que ça va aider. Mais défensivement, comme tu dis, ils ont quand même perdu qualité et quantité. Défensivement, il va falloir rattraper ça. De mémoire, en plus, ils n'ont pas pléthore de choix à la draft. Bon, c'est...
Oui, parce que j'ai même pas mentionné la retraite de Luke Kuechly.
Oui, voilà, tu vois, toi aussi. Moi, je trouve quand même que c'est une équipe qui a perdu un peu de matériel. Va falloir un coach qui a des bonnes idées très vite et ça...
Bah, disons que c'était une équipe plutôt défensive. Là, il va falloir qu'il la transforme très, très vite en machine offensive.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Ça va être l'objectif.
Sans Cam Newton.
Voilà. Sans Cam Newton. Raphaël, dernier perdant.
Bon, bah, je vais rester du côté de New York parce que j'ai décidément ces derniers temps, j'aime bien taper sur les deux franchises new-yorkaises, c'est un peu devenu une deuxième passion. je vais mettre les Giants. J'ai un peu hésité avec une autre équipe dans la ligue, mais je vais partir sur New York pour un peu le même constat finalement que les Jets. C'est que les Giants avaient beaucoup d'argent avant le début de cette free agency, un cap space très très important. De mémoire, ils étaient top 3 ou top 5 en termes de masse salariale libre. Ils ont un Daniel Jones qui est en deuxième année de contrat, donc qui est en contrat rookie, qui ne coûte rien dans la masse salariale. Idem pour Saquon Barkley qui est en troisième année, qui ne coûte rien encore. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à en profiter pour faire venir des top players. Quand tu regardes qui ils font venir, Blake Martinez en linebacker, Leonard Williams, je suis désolé, mais Leonard Williams, ils se sont enfermés dans un piège l'an dernier en le faisant venir pour un troisième tour. Et là, ils n'ont pas su comment en sortir. Ils lui ont mis le tag, donc il va coûter beaucoup trop cher. Sur la ligne offensive, il n'y a pas eu de vrai renfort. Il n'y a pas eu de renfort sur les receveurs, les linebackers. Bon, Blake Martinez, c'est bien sympa, mais c'est quand même...
Ah bah voilà, depuis des années que tu vois un linebacker, ils ont enfin un
non,
linebacker.
Non, mais attends, Blake Martinez, j'ai pas envie de taper sur lui outre mesure. C'est un joueur correct, mais c'est pas un top player comme New York aurait besoin et avait l'argent pour mettre sur un top player. Quand tu vois, il part pour le même contrat que Corey Littleton aux Raiders, excuse-moi. Je vois pas dans quel monde tu préfères le donner à Blake Martinez ton argent plutôt qu'à Littleton, mais enfin voilà. Et puis pareil, Bradbury, le cornerback qui font venir des Panthers, qui certes est jeune mais qui a des gros défauts avec beaucoup de big play accordés aux adversaires. Je voilà, quand t'as autant d'argent et que t'as des joueurs et qu'en attaque tes joueurs principaux sont en contrat rookie, je comprends pas que tu fasses venir des joueurs moyens comme ça. Enfin bon, moi depuis le début maintenant, je comprends pas ce que veut faire Dave Gettleman dans cette équipe, donc ça me...
Après, on vit une période trouble, hein. Peut-être que certaines équipes ont réparti entre leur salary cap entre les joueurs et des rouleaux de papier toilette. on ne sait pas, hein. Peut-être qu'il y a un énorme stock du côté des Giants.
Ouais, bah écoute,
Y a des investissements prioritaires en ce moment. Raoul, ton dernier perdant.
Mon dernier perdant, j'ai mis les Los Angeles Rams. On a parlé un tout petit peu de Todd Gurley. C'est peut-être pas forcément le mauvais move de le faire partir, mais vu l'argent que tu avais investi dessus, pour moi, au final, c'est une perte. Derrière, il y a énormément de joueurs qui sont partis. Dante Fowler, Corey Littleton, dont vient de parler Raph. Tu perds aussi Clay Matthews, Eric Weddle qui part certes à la retraite, mais qui sera plus là non plus. On ne sait pas ce qui va se passer avec Brandin Cooks. Est-ce que c'était une blague, son tweet de vouloir dire « libérez-moi » Est-ce que c'était lié au confinement? Bon, on ne sait pas bien, mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de pertes et peu de choses pour compenser ces départs. Alors certes, tu réussis à garder Andrew Whitworth, je vais y arriver, mais du coup, qui va ouvrir des brèches pour qui? Tu gardes Michael Brokers, mais bon, ouais, c'est bien, mais ça suffit plus trop. Heureusement, t'as Aaron Donald à côté, mais est-ce qu'il va pas se retrouver tout seul au bout d'un moment, ce brave garçon?
Oui, puis tu gardes Michael Brokers parce que les Ravens s'en veulent pas à cause de sa cheville, et tu gardes Andrew Whitworth qui a 83 ans.
Oui, qui était là la première année de la NFL.
C'est ça.
Je me souviens.
Et la légende dit d'ailleurs qu'il a été mis en confinement prioritaire, hein, parce qu'il est public à risque. Hein.
Vous êtes fait, un peu, oui. Non, mais bon, voilà, cet effectif a vraiment perdu en valeur, je trouve.
Je vais finir avec les Vikings, puisque c'est Tadjé Sharp qui vient remplacer Stephon Diggs. Alors j'aime beaucoup Tadjé Sharp pour les quelques petites choses qu'il a fait à Tennessee, mais ça reste quand même assez loin en niveau valeur. Et on sait quand même que Cousins doit être dans des bonnes conditions. Alors en fait, c'est pareil, ils peuvent me faire mentir si le vestiaire est beaucoup plus serein maintenant que Stephon Diggs n'est pas là, qu'il cartonne, que ça a rendu beaucoup de sérénité, etc. Mais pour l'instant, je suis pas tout à fait convaincu de ça, et donc t'as jamais assez de cibles, on l'a vu ces dernières années. Donc perdre Stephon Diggs, c'est quand même pas une bonne idée. Et derrière, en défense, tu perds Xavier Rhodes, Trey Waynes, Everson Griffin et Cebu Sack qui sont sur le départ, et Linval Joseph au milieu de la ligne. Donc ça commence à faire du matos perdu dans une division où tu joues toujours. Alors les Lions et les Bears sont en mauvaise posture, on en a parlé, mais t'as toujours les Packers, donc c'est quand même toujours compliqué. La NFC, même si tu vas sortir de la division, la NFC est quand même très 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 dense, donc perdre des armes face aux Saints et à tous les autres en ce moment, c'est quand même pas la meilleure des idées. On est bon sur les vainqueurs et les perdants, messieurs ?
Tout à fait.
Ouais.
Eh bien, on va passer aux questions. On est de retour avec les questions des auditeurs. Je crois que ça faisait quelques émissions qu'on n'en avait pas pris, mais on a eu le temps. Messieurs, vous dites oui ou non à ces hypothèses. C'est une question d'Elway75. Les Bengals gardent Dalton et font monter les enchères sur le choix numéro 1.
Non.
C'est leur genre, mais ce serait pas forcément intéressant.
Ouais, non, j'y crois pas quand même. Cam Newton s'envole vers la Cité des Anges pour faire flamber Hollywood.
Oui.
Ah, ce serait beau.
Oui aussi. Trent Williams en échange quitte les Redskins pour Cleveland et ils partent prendre un left tackle avec le choix numéro 2.
Pourquoi pas?
Donc les Redskins.
Oui, oui, ok.
Je pense pas que les Redskins soient assez intelligents pour les dirigeants soient assez intelligents pour échanger Trent Williams visiblement à un moment. Clooney fait casser sa tirelire, la tirelire des Jets avec un très gros contrat.
Possible.
Oui, possible.
Une des deux équipes de New York serait bien inspirée de le prendre. Mmh. Ouais. Antonio Brown est signé par les Dolphins.
Non.
Non.
Antonio Brown qui a déclaré visiblement qu'il était meilleur receveur que Julio Jones sur les réseaux sociaux, je dis ça comme ça. Jameis Winston débarque à Washington.
Oh non, ce serait dommage. Il y a mieux à faire.
Alors, on n'a pas parlé de Jameis Winston dans cette émission. Il est toujours libre
c'est
aussi.
Vrai.
Ouais.
Le problème, c'est que j'ai du mal à le voir. Est-ce qu'il accepterait d'être remplaçant, quoi?
Bah,
pourquoi pas.
Enfin,
regarde mine de rien Tannehill l'an dernier qui a accepté d'être remplaçant de Mariota et au cours de saison qui prend sa place. Si Winston est malin, il y a 2-3 équipes avec des quarterbacks un peu branque-ballant que tu peux essayer d'aller
tu peux t'arrêter là hein, si Winston est malin.
Oh ce coup bas.
Bah, je suis désolé.
Allez hop.
Oui oui non. Attends, j'étais en train de regarder j'étais en train de chercher une stat. Ils ont été sélectionnés en quelle année? Ah non, c'était pas la même année.
Ah bon?
Ce que j'ai dit, c'est Mariota?
Ouais, c'est en 2015, je crois, ou quelque chose comme ça.
15 ou 16, non?
Ouais, j'étais en train de chercher. En fait, je croyais que c'était la même année que Derek Carr, parce que Carr... Ouais, c'est ça. Derek Carr, c'est 2014, et Winston Mariota, c'est 2015. Parce que j'allais dire, sinon, il va aux Raiders comme troisième quarterback, et on fait une battle royale des quarterbacks de la draft 2015. C'était magique. Alors attendez, j'ai perdu le fichier avec les questions. Après le départ de Brady et des autres joueurs vers la NFC, y a-t-il un plus grand déséquilibre entre les deux conférences? Une AFC moins compétitive en dehors des Chiefs et une NFC encore plus intéressante et indécise? Question de Red Sharks.
C'est toujours la même chose chaque année. On dit que la NFC est beaucoup plus supérieure en termes de niveau. Maintenant, en AFC, ça veut dire que le niveau est plus resserré et que du coup, les places de playoffs sont plus dures à prendre.
Et au final, on dit ça, mais tu vois, j'ai trouvé la lutte l'an dernier, finalement, en AFC pour atteindre le Super Bowl plus dense et intéressante que celle en NFC, ouais. Où finalement, les 49ers se sont globalement baladés en playoff en NFC, alors qu'il y a quand même eu des sacrés matchs entre Titans Ravens, Titans Chiefs. Enfin, ouais, je suis pas persuadé.
Oui, ouais, j'ai tendance à réfléchir à ça. J'ai pas l'impression que les Ravens soient des peintres, que les Steelers, avec le retour de Ben Roethlisberger, soient des peintres. Les Titans sont costauds maintenant.
Chaque division devient un peu plus homogène en fait en AFC, je trouve. Donc, même avant les playoffs, je trouve que chaque division peut donner un gagnant quasiment différent, quoi.
Après, disons que c'est sûr que là, la AFC Est sans Brady, elle est très
ouverte.
Ah
bah, si les Bills la prennent pas cette année, je sais pas quand ils la prennent. Hein.
Ouais,
je suis d'accord.
Question de Baptiste Mazot, Brissette plutôt remplaçant de Philippe Rivers, qui, je l'affirme, va manquer plus que l'on pense aux Chargers, ou plutôt bonne option pour les Patriots s'ils font une belle offre. Est-ce que Brissette de retour aux Patriots, tiens, ça pourrait être une option, eux qui l'ont drafté?
Encore une fois, t'as Winston et Newton dispo, est-ce que tu fais vraiment revenir Brissette?
Ouais, je suis pas.
Oui, c'est vrai.
Je suis pas convaincu particulièrement par faire revenir Brissette.
Question de Monsieur Az, je trouvais les années précédentes que cette période était particulièrement calme et que l'actu majeur était la draft. Cette année, il me semble qu'il y a beaucoup de plus de transferts. Est-ce seulement mon impression? Alors, je suis désolé, j'aurais dû chercher la stat, mais je pense que numériquement, il y a plus d'échanges qu'il y en a eu.
Ouais, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu pas mal d'échanges. Ouais, j'ai aussi ce sentiment-là.
Est-ce qu'il y en a pas des plus importants surtout? Enfin, rien que Tom Brady, déjà, voilà, ça a excité tout le monde.
Oui, bah ça, c'est de la free agency, c'était pas un échange.
D'échanges, ouais.
Mais bon, Hopkins et Diggs, ça a bien animé le.
C'est clair. Et puis on voit que le franchise tag ces deux dernières années est devenu une sorte d'échange de blocage pour éventuellement échanger, ce qui n'était pas le cas avant, puisque les équipes étaient censées garder le joueur de bonne foi.
Ouais.
Question d'Aflox, pour commencer, vous allez bien,
ouais.
Monsieur?
Moi oui, très bien, merci.
Personne n'a de fièvre, tout va bien.
Non.
On le dit d'ailleurs, restez chez vous.
Oui, lavez-vous les mains.
C'est ça, restez chez vous, lavez-vous les mains. Non mais faut pas plaisanter. Alors je fais pas souvent dans le personnel, mais j'ai une membre de ma famille qui a seulement 33 piges et qui a fini sous assistance respiratoire. Heureusement elle s'en est sortie, mais voilà, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres, ouais. et que ça n'arrive qu'aux anciens. Ça arrive aussi aux gens jeunes, donc faites gaffe à vous et essayez de limiter les sorties. Tom Brady attend pas, vous en pensez quoi? Bon, on en a pas mal parlé. Et sinon, la signature que vous préférez, celle que vous n'aimez pas du tout? parce qu'on a fait des équipes, mais est-ce qu'il y a une signature que vous avez vraiment aimée et une que vous n'avez vraiment pas aimée?
Signature. Si, oui, je dis Xavier Rhodes chez les Colts, pour, juste parce que c'est un an. Pour moi, c'est smart d'avoir fait cette espèce de, d'entre-deux.
Et que t'as pas aimé?
Et que j'ai pas aimé. Attends, je me remets dans mes notes. Nick Foles, pour moi, idiot.
Qui était un transfert.
Mais ou tiens, non, mais Robert Quinn, voilà.
Ah oui, Robert Quinn. Ah oui, tiens, je te rejoins. Celle-là, quand j'ai vu le montant, je me suis dit, merde, on est encore en 2015.
Non, mais c'est ça, Robert Quinn pour 5 ans avec 30 millions garantis.
On n'a pas parlé des Browns, mais j'aime bien Jack Conklin au niveau des signatures.
Ouais, c'est pas mal.
Un tackle.
Moi, j'ai bien aimé les Bengals qui, pour une fois, sont un peu actifs en faisant signer DJ Reader.
C'est vrai qu'ils étaient. Ils étaient border dans les gagnants, hein, parce qu'il y a Von Bell aussi.
Ils ont fait une free agency assez active, ce qui est très très rare pour eux, et ce qui me fait dire qu'ils vont clairement vers un jeune quarterback en contrat rookie à entourer rapidement et bien. Mais
les Browns aussi auraient pu d'ailleurs être en gagnant, enfin, et qu'on fait venir beaucoup de monde et pas trop mal.
Ouais, mais on est trop refroidi sur les Browns depuis
peut-être, c'est vrai.
Temps. Question suivante, excusez-moi. Qu'avez-vous pensé de la free agency des Las Vegas Raiders, Kwiatkowski, Mariota, Littleton, etc. Mariota peut-il pousser Derek Carr sur le banc? Eli Apple peut-il être un cornerback numéro 1? C'était une question de Flo Raiders. Et alors j'en profite, je fais un teasing honteux et je dis on y répondra dans l'émission de lundi prochain, puisqu'on fera le débrief de toute l'AFC.
Eh bah parfait. Ça,
voilà, on se garde des billes pour les émissions très suivantes. Lundi prochain, on débrief toute la free agency de l'AFC. Lundi d'après, la free agency de la NFC. On termine avec une question de Goldmind. Bonjour l'équipe, j'ai une question qui risque de nécessiter des recherches et l'autre non. Tagovailoa lance de la main gauche mais est droitier dans la vie. A-t-on déjà vu des quarterbacks ambidextres ou du moins qui utilisaient occasionnellement leur deuxième bras? Alors c'est une sorte de petit quiz. Est-ce que vous pouvez me citer un quarterback ambidextre?
Non, franchement.
Toi, t'as la réponse?
Alors, en fait, j'ai pas réussi à le confirmer. J'ai trouvé plein d'articles qui font allusion au fait qu'éventuellement, en fait, Michael Vick écrive de la main droite et lance de la main gauche.
Il n'y a pas une histoire de Brett. Pourquoi j'ai Brett Favre en tête? Je suis peut-être en train de confondre avec un autre truc.
Après, il est arrivé que des mecs lancent le ballon de l'autre main une fois, je crois. Tu sais, genre sur une action.
Oui,
pas où il panique, ouais. mais voilà. Et alors. Autre question, combien, messieurs, il y a de quarterbacks gauchers actuellement en NFL?
Gaucher?
Oh.
Ouais.
Je suis nul à ça.
Ouais, j'avoue, c'est pas vraiment un truc auquel je fais attention.
6, allez, au pif.
Alors, 6 pour Raphaël.
Là, comme ça, visuellement, j'en vois aucun, mais.
Eh ben, c'est ça, il y en a aucun.
Ah bah voilà, moi j'ai vraiment dit en me disant bon les stats, je sais pas quoi, mais.
Eh ben non, en fait il y a aucun quarterback gaucher actuellement en NFL. Le dernier c'était Kellen Moore de 2012 à 2017.
Oh là, Moore il jouait où déjà?
Il est passé Boise State à la fac et ensuite Cowboys et Lions, et aujourd'hui c'est le coordinateur offensif des Cowboys.
Ah mais oui, bien vu.
Donc voilà, et Tim Tebow était gaucher.
Oui.
Mais il y en a eu très très peu, c'est-à-dire que les derniers c'est Kellen Moore, Tim Tebow, Pat White de 2009 à 2014, Matt Leonard de 2006 à 2013,
et pas des grands
mais c'est ça, Tyler Palco 2004-2011, Jared Lorenzen 2004-2014, Chris Sims 2003-2010, Michael Vick 2001-2015, c'est le dernier vraiment un peu côté. Sinon en remontant, Ken McCone, Dognus Meyer, Mark Brunel, Todd Marinovich, Scott Mitchell, Steve Young, voilà. Ah. On remonte là dans les très très loin, quoi. C'est vraiment
ouais, Steve Young et Michael Vick, on pourrait dire que c'est les deux meilleurs du lot, quoi.
Bah c'est ça a priori. Après si on remonte, il y avait Ken Stabler des Raiders je crois, enfin voilà, mais oui, c'est vraiment de plus en plus rare visiblement.
Deux Hall of Famer, effectivement.
Deux Hall of Famer.
Ben il y a deux Hall of Famer gauchers, quoi.
Stabler et Young.
Ah oui, pardon, je croyais que tu parlais de Vic.
Non.
Voilà. Et donc oui, pour la petite histoire, encore une fois, le seul que j'ai trouvé a priori, ce serait Vic, qui serait droitier dans la vie.
D'accord.
Et gaucher pour lancer. Et je crois que c'est donc c'est le cas de Tagovailoa aussi. Voilà. Donc Vic, il a le syndrome Nadal à l'envers, parce que Nadal apparemment a écrit de la main droite. Ah bah non, mais c'est ça, voilà. Vic,
ouais,
bah
c'est ça,
Nadal.
C'est le Nadal.
C'est ça. Il écrit de la main droite et il joue tennis de la main gauche.
Il s'est forcé pour être meilleur.
Ouais, des fois c'est pas explicable. Je refais dans le perso, mais moi je joue au tennis de la main droite et j'écris de la gauche.
Ah oui, mais t'es pas Raphaël Nadal.
Mais non, c'est pour ça que j'aurais dû jouer de la gauche, tu vois.
Je suis désolé, hein.
Mais non, mais voilà. Mais la seule chose que je sais faire, c'est de la main gauche, c'est écrire. Tu vois. Je sais pas pourquoi. C'est
comme ça.
Comme ça. Bon, ouais. après j'écris très mal, peut-être que je devrais essayer de la droite.
Peut-être que tu devrais inverser.
Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 346. D'habitude, l'anecdote perso, c'est dans le fauteuil. Je suis désolé, j'ai débordé. C'est comme ça que se termine le 346 du podcast J'en Actu, l'émission qui vous était présentée cette semaine, enfin non ce lundi, parce qu'il y en a trois cette semaine, par Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine qui a des boutiques à Lyon et Dijon, mais aussi une boutique en ligne, brooklynfizz.fr, n'hésitez pas à y aller, elle est active, avec du sucré, du salé, mais aussi des maillots NFL, des casquettes, des Funko Pop, des ballons, des t-shirts, allez y faire un tour, il y a plein de choses. Tiens, j'ai un petit carton avec quelques petites choses qu'ils m'avaient envoyées, je vous en ferai probablement gagner d'ailleurs pendant des live drafts. Quelque chose comme ça, il y a un Funko Pop de Bart Starr, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a quelques petites choses comme ça que j'ai en stock, donc voilà, il y a de quoi à faire. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup.
Et ben, merci à vous deux.
Ben, merci à toi.
Et on vous rappelle merci le podcast J'en Actu qui va être là pendant tout le mois d'avril, trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. La prochaine, c'est donc mercredi, on parlera des quarterbacks de la draft. Le vendredi, ce sera running back de la draft, toujours avec Grégory Richard. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine, Mathieu, Le Boucanier et Genati. Pour nous suivre, Twitter, @TDActu, Facebook, @TDActu, Instagram, @JeanActu. Pour Twitter, les comptes perso, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @AlainMatei. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Il y a plein de choses en ce moment, plein de fiches draft, le stade Madness aussi hein, d'ailleurs, parce qu'on remplace la March Madness qui n'a pas lieu avec le stade Madness. Vous pouvez voter pour les meilleurs stades en NFL, ça met en valeur les excellentissimes papiers de Sébastien Polomeni qui vous apprend tout ce qu'il faut savoir sur les stades, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour.
Même merci le prix du hot dog, hein, donc allez-y.
Ah non mais il y a tout, il y a l'accès au stade, quelle autoroute faut prendre, combien va vous coûter le hot dog et le parking, enfin voilà, c'est hyper documenté, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup encore une fois messieurs, on vous dit à très bientôt, plus rapidement que jamais, sur TD Actu. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TD Actu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.